Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Ensemble, à nouveau, dans nos lectures en liberté, pour la suite du roman de Jean-Claude Izot, Les Marins perdus. Allongé sur sa couchette, les yeux fermés, Abdul Aziz ébaucha mentalement plusieurs lettres à ses fées. Il essayait de retrouver ce sentiment de bonheur qu'il avait perçu cet après-midi, quand la lumière coulait du ciel, comme à Byblos. Ses fées étaient là, pas loin. Mais chaque fois qu'il trouvait la phrase juste, le Citerna 38 lui faisait face, prêt à prendre le large. Et ses fées s'éloignaient. Il lui semblait la voir sur le quai, dans cette robe bleu pâle qu'il lui avait offerte à son retour d'Adélaïde. Elle agitait la main. « Il n'y a pas de honte à être heureux, » dit-il en se redressant. Mais sans savoir s'il s'adressait à lui ou à ses fées ou à l'humanité en général. Diamantis frappa à la porte de la cabine d'Abdul. « Abdul, tu viens bouffer ? Entre !» cria-t-il. C'était la première fois qu'Abdul invitait Diamantis dans sa cabine. Abdul changeait. Diamantis ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil furtif sur l'aménagement intérieur. Tout était parfaitement en ordre. Il fut surpris de découvrir plusieurs livres empilés sur sa table de travail. Abdul n'avait jamais fait allusion à des livres qu'il lisait ou qu'il aurait lus. Abdul était debout, les mains dans les poches. Il avait enfilé un short bleu et un t-shirt noir. Large. Alors il a fait quoi comme connerie ? Comment ça ? Mais fais pas chier, Diamantis. Nedim, c'est sans doute un brave type, mais c'est un sacré fouteur de merde. Bah, chacun ses histoires, non ? S'il a envie de t'en parler, il t'en parle. Tu fonctionnes comme ça, moi aussi. Il n'y a aucune raison pour que je le considère comme moins que nous. Mes histoires ou les tiennes, c'est des histoires personnelles. Ça n'a rien à voir avec ce foutu cargo. Moi, ici, je suis capitaine et j'ai des responsabilités à assumer. Je les assumerai tant que je serai à bord. Ok, Diamantis. Nedim, ma main a coupé qu'il va nous attirer des emmerdes. Ils s'observèrent en silence. Cette discussion sonnait faux. Ils en avaient l'un et l'autre conscience. Il s'affrontait à propos d'un marin comme si l'Aldébaran devait prendre la mer cette nuit. Et ce qui était étonnant, c'est que jamais il ne s'était affronté ainsi sur le cas d'un marin. Diamantis s'avança, énervé, vers Abdul. On aurait pu croire qu'il allait le frapper. Abdul ne bougea pas et Diamantis lui fit face. « Écoute Abdul, tes discours, je m'en tape. » Et je vais te dire, on est là, toi, lui, moi, avec nos histoires. Et quoi qu'il en soit, ça a à voir avec ce tas de ferraille. Merde, quoi. Abdul retint Diamantis par le bras alors qu'il quittait la cabine. Ils se regardèrent. Il y avait de l'amitié dans leurs yeux. « Bon, alors, tu viens bouffer ?» sourit Diamantis. Ils avaient fait cuire du riz qu'ils arrosèrent d'huile, puis ils se partagèrent deux boîtes de maquereaux. Nedim rompit le silence. Il fallait qu'il parle, toujours. Il ne pouvait pas s'en empêcher. « Il y a des nouvelles pour le bateau ? » Pourquoi ? Tu veux reprendre du service ? Ironisa Diamantis. Déconne pas, c'est terminé tout ça. Moi, je rentre, je me marie, je monte une petite affaire et hop, une petite vie peinard. Voyez, j'y ai pas mal pensé. On voit du pays, on s'amuse, on nique des femmes de toutes les couleurs. Puis quoi, tu te retrouves à 50 berges, seul ou cocu. Vous en pensez quoi, capitaine ? J'ai pas raison ? À Rouen, dit Abdoul, sans relever la question de Nedim, le Legacy vient d'être vendu. J'ai appris ça ce matin. Au premier feu, il était à 750 000 dollars. Ils sont montés jusqu'à 1 035 000 dollars. Diamantis siffla entre ses dents. Tu sais qui a emporté le morceau ? Une société panaméenne, comme d'habitude. Tu connais ? Ouais, fit Abdoul en souriant. On murmure que c'est un prête-nom de l'ancien propriétaire. Ah, et qui c'est ? Le même que le nôtre ? L'enculé, lâcha Nedim, l'enculé de sa race. Nous, on crève, lui, il s'achète un autre bateau. Ouais, dit Abdoul, mais le Legacy, c'est un fichu beau cargo, 1600 mètres, à peine 20 ans, une belle affaire. Ils étaient combien à bord ? 2. Abdoul regarda Diamantis. Le capitaine et son second. Les 8 membres de l'équipage étaient partis depuis plusieurs mois, comme vous, dit-il en regardant Nedim. Et oh, oh, moi je suis toujours là, hein ? Si on nous vend demain, je veux bien palper encore un peu, non ? Toi, tu as déjà touché et t'es plus là, officiellement. Tu te rappelles ça ou non ? Tu le connais, le capitaine ? Interrogea Diamantis. Un jeune mec, Antonio Ramirez, un Chilien, 39 ans. 40 tours du monde. Je l'ai eu une fois comme second sur Madagascar, il y a 10 ans. Le Legacy avait accosté à Honfleur il y a 1 an pour livrer de l'engrais. Mais une fois dans le port, Ramirez avait refusé de brancher les flexibles pour décharger la marchandise tant que les salaires ne seraient pas versés. Depuis 6 mois, personne n'avait été payé. L'armateur versa alors 152 000 francs, mais les marins estimèrent la somme insuffisante. Ramirez décida d'amener le Legacy jusqu'à Rouen. Là, Hydro Agri France accepta d'avancer 300 000 francs pour débloquer sa marchandise. Celle-ci était alors livrée sur ordre de Ramirez. Mais depuis, comme en représailles, le Legacy était oublié dans le port par l'armateur. 1 an sans eau chaude ni électricité, claquemurés dans des cabines non chauffées et ravitaillés comme l'Aldébaran par des associations humanitaires. Le rapatriement de l'équipage, c'est la fédération qui l'a financé, précisa Abdoul. Merde, fit Nedim, vous auriez pu nous régler ça, le rapatriement. On n'aurait pas été à galérer pour trouver comment rentrer chez nous. Mais toi, t'as touché du fric, pas eux. J'ai pensé que c'était mieux, du fric. Oui, admit tristement Nedim, c'est sûr. Et il se perdit dans ses pensées. Ouais, c'était mieux d'avoir eu du fric. Mais avec simplement un billet de train, il y serait déjà chez lui. Il aurait inventé une histoire comme quoi son fric qu'on allait le lui envoyer. 1 ou 2 vieux copains auraient pu le dépanner en attendant. Il aurait pu faire ça, merde. À Istanbul, il savait comment gagner un peu d'argent vite fait avec les touristes, les Italiens et les Français essentiellement. Les Français, ils arrivent le nez plongé dans leur guide des hôtels pas chers et ils se perdent dans les rues, alors il suffit d'être là pour les aider, les conseiller. Il avait gagné pas mal comme ça quand il était à l'armée, les soirs de permission. Il rabattait vers d'autres hôtels que ceux indiqués dans le guide, vers d'autres restaurants. Ce n'était pas plus mal qu'ailleurs. Les touristes ne payaient pas plus cher et en plus, c'était ça l'argument, ils ne croisaient pas d'autres touristes. Istanbul, le vrai, jusqu'au café Yenikapi, au bord de la mer, qu'aucun guide ne signalait. Lui, il touchait une petite commission sur les nuits d'hôtel, sur les repas. En plus, souvent, on lui payait à boire et à manger. C'est pas ce que ça leur coûtait aux touristes. Crevettes, foie à l'albanaise, moule farcie, haricots en sauce, fromage blanc. Sans compter sur la chance de pouvoir baiser les nanas, les françaises surtout. Elles venaient à deux ou à trois, le sac sur le dos, sans mec. Son plus beau coup, ça avait été avec deux alsaciennes. Elle voulait absolument aller à Kizil Adalar, les îles rouges, à 20 km au large d'Istanbul. Et elle disait « les îles des princes », comme c'était écrit dans leur guide. Et elle cherchait désespérément l'appontement du ferry. Il leur avait proposé mieux, un petit bateau, où elles ne seraient que toutes les deux. C'était mieux qu'avec 1500 personnes. « C'est quoi ton problème, Nedim ?» demanda Abdoul. « Mon problème ?» L'image des deux blondinettes s'estompa. Il revit Lala, puis Gabi. « Mon problème, c'est que je me suis fait tirer tout mon fric comme un con. » Il jeta un coup d'œil rapide à Diamantis. Il lui avait raconté la vérité, enfin pas tout. Il ne lui avait pas encore parlé de son sac qui était resté là-bas, au Habana, et du fric qu'il devait donner pour le récupérer. « Je te croyais plus malin, Nedim. Se faire piquer son fric, mais t'es un vrai plouc ou quoi ?»« Ouais, » fit-il d'un air idiot. « Je suis qu'un paysan, moi. Et tu me prends pour un con. » Diamantis sourit. « Je suis allé en boîte avec Ousben, avoua Nedim, pour attendre l'heure sans se faire chier. Et on a bu des coups, voilà. »« Ousben, il est parti ?»« Ben oui, je crois. Il avait un train. » Les trains, ça part à l'heure. Moi, je suis resté seul et t'as tout claqué. Putain, non ! Il s'énervait. Il se leva en repoussant son assiette. Il n'avait pas mangé ses maquereaux. Berk, c'est dégueulasse, ces trucs. Y'a que ça à bouffer, rétorqua Diamantis. Faudra t'y faire. Allez, t'énerve pas, assieds-toi. Nedim se rassit. T'as une clope ? Il demanda à Diamantis. J'en ai plus. Il alluma la cigarette puis regarda Abdoul. J'ai pas vu l'heure, j'ai bu d'autres coups et merde, je me suis fait arnaquer par deux filles. Voilà, vous êtes content, hein ? T'as pas à me raconter des cracks, Nedim. Et je suis pas ton père, ni ta mère, et ni ta fiancée. Tu baratines ce que tu veux à qui tu veux, mais pas à moi, d'accord ? Ici, on est entre hommes, on se bluffe pas. Diamantis se racla la gorge. Abdoul leva les yeux vers lui. Nedim les observa. Il y a un truc entre eux, il se dit. Mais il ne mouffeta pas. Bon, la chaîne est dit, mais ce whisky, on se le boit ou pas ? Diamantis alla chercher la bouteille. Ils burent en silence. Comment on peut faire ? Leur demanda Nedim. Comment on peut faire quoi ? Répondit Abdoul. Ben, pour moi, putain, je vais pas rester à moisir ici, c'est pas que je vous aime pas, mais vous, plus je vous écoute, je me dis que vous êtes comme les mecs du Legacy, le capitaine et son second, vous êtes des têtes dures, ça fait longtemps que vous vous connaissez. Pas mal, répondit Diamantis. Y a rien à faire pour toi, Nedim, enchaîna Abdoul. T'as eu ton fric pour partir, point, t'auras rien d'autre. Même si on vendait l'Aldébaran demain, tu n'auras droit à rien. T'as renoncé à tous tes droits.
Le soir descend sur les navires, monte la brume de la mer. Dans la rue de la République jouent les lumières de l'hiver. Comme la ville m'est dure, mon amant navigateur, sur un paquebot de fer, part demain pour l'aventure. Et déjà ma solitude, près des hangars de la nuit, mêle son inquiétude aux faces tirées de l'ennui. Ne me laisse pas si seul, perdu au froid de mon lit, et mon amour qui console lorsque je pleure me dit: petite fille maritime, mon pauvre cœur est déchiré entre mon bateau de Chine et ton lit de fiancée. Laisse-moi partir, qu'importe. Un jour je te reviendrai. Tu m'attendras sur le môle, dans le clair soleil levé. J'aurai pour toi dans les lacs noirs des soies en couleur et des oiseaux écarlates sur des étoffes en fleurs. Puisque la terre est si belle, laisse-moi la visiter. Je te serai plus fidèle quand je serai satisfait. Et moi je ne sais que dire, et je ne puis que pleurer. Le soir descend sur les navires et sur ma tendresse noyée. Que me font à moi la Chine tes cadeaux à ton retour, si des escales marines tu ne rapportes ton amour.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Jean-Claude Izot, Les Marins perdus. Le mieux, reprit Diamantis, c'est que tu te trouves un moyen pour rentrer chez toi. S'il te faut un peu de fric, on t'en trouvera. Il interrogea Abdoul du regard. Ouais, on se débrouillera, admit-il sans plaisir. Il finit son verre et se leva. Mais un conseil, Nedim. Tu nous fais pas d'embrouille, je te préviens, bonne nuit. Ah, encore une chose, demain je reste à bord, arrangez-vous pour la permanence des autres jours. Une permanence ? S'exclama Nedim, dès qu'Abdoul fut sorti. C'est quoi ce truc ? Une permanence, pourquoi ? Une permanence, c'est tout. T'obéis et tu poses pas de questions. Diamantis attrapa la bouteille, en servit une bonne rasane à Nedim. Pour la nuit, allez, ciao! Et il partit, en emportant la bouteille. T'es cinglé, marmonna Nedim. En le quittant, Diamantis monta sur le pont principal. Rien n'avait été rangé. Il était encombré d'échelles, de tuyaux, de câbles, de lampes tempêtes, de gréements, de lampes à souder, de gants de travail, de pots de peinture. Il aimait être là. C'était l'endroit qui sentait le plus le bateau. Il faisait bon. Il s'assit. Il se demanda si Mikis venait à Psara cette année pour les vacances. Il devait l'appeler pour savoir. Il aurait bien aimé aller à la pêche avec son fils. Ça faisait longtemps. C'est comme ça qu'ils se retrouvaient tous les deux depuis que Mélina et lui s'étaient séparés. Dans le silence de la mer. La pêche les rendait complices, père et fils. Les mots d'abord inutiles venaient ensuite naturellement. « Qu'est-ce que tu cherches si loin d'ici ?» lui avait demandé Mikis l'été dernier. Diamantis avait haussé les épaules. « Rien. Plus rien. Je croyais que mon bonheur, c'était ça, courir le monde. Mais tu vois, quand je repense à mes années de navigation, je sais plus ce qui est vrai dans tout ce que je peux raconter à toi ou à d'autres. Tout ça est devenu une réalité, mais est-ce que c'était ça, le bonheur que je cherchais ? Mystère. Le bonheur, pensait-il aujourd'hui, n'existait qu'avec les blessures de la vie, les souffrances. On découvrait alors que ce n'était qu'une idée. Il n'avait cependant rien dit de cela à Mikis. Il était son père, mais il ne détenait pas la vérité pour autant. Il pouvait se tromper. Il s'était souvent trompé dans la vie. Maintenant, il était assis sur sa couchette. Il ouvrit le bloc-notes où il consignait ses réflexions sur l'étude des cartes maritimes méditerranéennes. Il se relut avec la volonté de s'extrader de ce cargo. Si les voies maritimes ne se laissent pas facilement circonscrire, c'est peut-être parce qu'elles s'entremêlent des récits. Les cartes où elles sont marquées ont pu être imaginées, les écrits qui les accompagnent inventés. Il but une lampée de whisky à même la bouteille. C'est une question qui avait obsédé son père. Il n'avait parlé que de ça l'année avant sa mort. Historiens et géographes, lui avait-il expliqué, se sont acharnés contre Pythéas. Strabon en particulier, il ne croyait pas que Pythéas était parvenu là où le tropique du Cancer devient le cercle arctique. Et où le sol est tel qu'il est impossible d'y marcher ou d'y naviguer. Polybe aussi considérait ses périples comme de simples contes. De leur côté, avaient insisté son père, Hérodote et Pline, qui sans doute considéraient la Terre d'une manière analogue à celle de Pythéas, le crurent, comme Aristote plus tard. Tu vois, je crois qu'il existe une limite entre le vraisemblable et l'invraisemblable. Et cette limite, les grands périples l'ont franchie. Diamantis se dit que c'était là la seule vérité d'homme, trouver dans la vie son chemin entre le vraisemblable et l'invraisemblable. Les réconcilier, non pas en franchissant la limite, mais en réconciliant l'un et l'autre sur cette ligne imaginaire. Jusque-là, il n'était toujours pas arrivé à ça. Mais pas plus qu'Orient et Occident n'arrivaient à s'aimer. On frappa à sa porte. C'était Nedim. Excuse, je te dérange, mais il y a encore un truc que je t'ai pas dit. Tu fais chier, Nedim. Ouais, je sais, mais c'est important, Diamantis. Tu vois bien, j'ai plus rien. Toutes mes affaires, mon sac, quoi, il est resté dans la boîte. Pour le récupérer, faudrait que je sorte dans les 900 balles. Et où tu veux que je les trouve, tes 900 balles ? C'est pas ça, Diamantis. Je me disais que si tu te pointais là-bas, peut-être que ça les impressionnerait, les filles, et que ces bars américains, c'est pas forcément très net. Tu sais ça. Alors si tu disais, je sais pas moi, que tu serais le capitaine, hein, et elles auraient pas envie que ça se fasse des histoires. Tu vois le genre, que t'irais voir les flics, tout ça. Je vais pas leur laisser mon sac, merde. Mais tu fais vraiment chier, là, hein. Je sais. Dis, t'as pas encore une clope ? Vu que j'ai du whisky, mais plus rien à fumer avec. Tiens. Super, alors quoi ? Ben, on peut y aller demain, non ? Ok, on ira demain, on peut toujours essayer. Nedim tapota affectueusement l'épaule de Diamantis, puis il sortit. Diamantis renonça à plonger de nouveau dans ses cartes maritimes. Il les rangea soigneusement. Cependant, il nota dans son carnet... La Méditerranée n'est pas seulement une géographie. Elle n'est pas seulement une histoire, mais elle est plus qu'une simple appartenance. En fermant les yeux, il revit le visage de Mariette, son sourire avec ses deux fossettes. Il était heureux d'avoir accepté son invitation. Il étouffait à bord de l'Aldébaran. De là, où il se trouvait, Diamantis avait une vue unique sur toute la rade, du cap de l'Aigle à l'extrême sud de la Ciotat jusqu'à la pointe Grenier à l'est des Lecques. Appuyé à la balustrade de la terrasse de la villa, il se laissait saouler par les odeurs qui montaient du jardin. Odeurs de pain et de lavande mêlées. Ses oreilles s'emplissaient du chant lancinant des cigales. Son corps se détendait au fur et à mesure que ses sens étaient mis à vif. Un bonheur. Une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Il se dit qu'il pourrait mourir ici, qu'il serait bien couché sous les oliviers, là-bas, au fond du jardin. Mais il s'était déjà dit ça il y a 20 ans. À Agios Nikolaos, chez lui, sur l'île de Psara. Et il savait que c'était là-bas qu'il voulait reposer, à côté de son père. Il l'avait dit à Medlina le soir-là, après l'enterrement, avant qu'il ne fasse l'amour. Ils avaient grimpé à travers les figuiers, les buissons d'épineux et les ruines des moulins aux ailes inertes jusqu'au sommet de la falaise. La mer et le port s'étendaient devant eux en contrebas, leur corps était en sueur. Ils reprirent leur souffle en silence, leurs yeux léchés par les vagues mourant sur le sable. « Tu vois ?» avait dit Mélina. « Ici, je n'abandonne rien de moi-même, je suis sans masque. »« Moi, c'est là que je veux mourir, Mélina. J'y ai appris à vivre dans cette aridité et à refuser tous les plus tard du monde. » Mélina s'était lentement tournée vers lui, son visage était grave. Elle l'avait embrassé. Un baiser d'abord furtif qui l'avait fait frissonner, avec passion ensuite. Ses lèvres avaient le goût du sel, comme son corps. Ils étaient redescendus avec le coucher du soleil. À cette seule heure du jour où le port s'anime vraiment, l'heure de l'ouzo, l'heure où l'on se promène en donnant le bras à sa fiancée. Il avait glissé le sien sous celui de Mélina, et ils avaient remonté le quai sous le regard des pêcheurs et marchands de chèvres attablés au café. Ils avaient annoncé qu'ils allaient se marier, et sa mère, encore larmoyante de chagrin, avait sangloté de bonheur. Diamantis entendit des voix. Il se retourna pour voir Mariette raccompagner au portail le jeune couple bon chic, bon genre qui venait de visiter la villa. Des portières claquèrent, puis elle fut là, Mariette. « Affaire conclue !» lança-t-elle joyeuse. « Ils ont raison, hein, c'est beau, non ? Superbe !» Il ne pouvait détacher ses yeux de Mariette, elle était rayonnante. Tu n'as jamais envie d'acheter les maisons que tu vends, comme celle-ci, je veux dire. Ouais, dit-elle en s'accoudant à la balustrade à côté de Diamantis. Oui, bien sûr, mais d'abord, j'en ai pas vraiment les moyens. Ensuite, une maison, ça ne vaut rien si t'as pas un homme à mettre dedans. Elle rit comme d'une bonne plaisanterie. On aurait dit une adolescente. Et t'as pas d'homme, c'est ça, dit-il en lui souriant. « Bon, j'ai une gamine de 9 ans, Laure, mais pas le papa qui va avec, et toi ?»« Moi, j'ai un garçon, mais plus la maman. » Elle rit encore. Cette femme avait un rire fait pour le bonheur. « On est à égalité, alors ?»« À égalité ?» Il réfléchit un instant. « Non. Mikis a passé l'âge des mamans, et moi, j'ai renoncé à trouver une femme, à la chercher même. » Ils se regardèrent. Diamantis fut bouleversé par le désir qui coulait des yeux de Mariette. Des paillettes d'or y pétillaient. Elle lui prit la main et l'entraîna presque en courant hors de la terrasse. « On va se baigner ?»« Se baigner. »« T'as pas vu la piscine ? Parce qu'il y a aussi une piscine, le grand luxe. Faut en profiter, non ? Au moins une fois dans sa vie. » Ils descendirent quelques marches et contournèrent la maison. Devant la piscine, elle lui lâcha la main, elle fit glisser les bretelles de la robe en toile blanche ample qu'elle portait. Dessous, elle était en maillot de bain blanc aussi. Il n'eut pas le temps de détailler son corps, elle plongea bras tendu devant elle. Il la suivit des yeux sous l'eau bleue transparente. La tête de Mariette réapparut à l'autre bout. « Alors tu viens ?» elle cria en reprenant sa respiration. « J'ai pas de maillot, t'aurais pu prévenir. »« Allez, je ferme les yeux, allez, viens, elle est super bonne. » Il resta en caleçon. Diamantis était un homme pudique. Ils restèrent à se sécher entre ombre et soleil, assez loin l'un de l'autre, sans parler, perdus dans leurs pensées, leurs désirs. Il Ils aimaient ça, avec Amina aller se baigner. C'était au large, toujours, sur les îles du Frioul, une infinité de petites criques permettaient d'être seuls. Ils nageaient longtemps, loin, revenaient, le corps d'Amina sur son dos, collé au sien, puis à bout de souffle, en équilibre sur un rocher, ils s'embrassaient. Le corps d'Amina enroulé au sien, tressé, puis ils vacillaient, tombaient et se laissaient couler au fond de l'eau. Le corps d'Amina noué au sien remontait et roulait avec les vagues, toujours collés l'un à l'autre, tels deux arapèdes épuisés jusqu'à l'étroite bande de sable brûlant. Voilà donc pour ce soir. La suite de ce roman de Jean-Claude Izot, Les Marins Perdus, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guillon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.